Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le jeudi 10 juin 2021 et vous écoutez le podcast Le Café de l'e-commerce, saison 2, épisode 85. Je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien.
Coucou à tous, ici Adrien, accompagné de l'inaltérable Laetitia. Vous pourrez rien faire sur son ADN, elle est unique, elle est ici, elle est à Paris. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast francophone décalé authentique sur l'actualité du e-commerce pour tous les passionnés du commerce en ligne.
LC2 vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles et aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode depuis le studio d'ADN Paris. ADN Paris, c'est une marque française qui vous propose des pièces incontournables dans un style sans effort, rassurante et réconfortante. Merci beaucoup Léa de nous prêter ton studio. Au sommaire de cette émission, des news simples et funky en mode mitraillette, un Suédois qui débarque en France, Kiabi qui se lance dans la location et TikTok qui est toujours en sursis aux États-Unis. On prendra un café avec Henri Pruvot, social media manager, et on discutera social media. Et comme à chaque fin d'émission, on terminera avec du fun et on vous challengera avec des jeux autour de l'actualité de la semaine. Adrien,
Laetitia,
prêt?
Synchronisation des montres. Toutes les news e-commerce dont on ne parlera pas cette semaine, mais qu'il ne fallait surtout pas louper, c'est la rubrique des news simples dans un format funky.
La fintech suédoise Klarna débarque enfin en France.
Instagram rajoute des fonctionnalités pour ses créateurs autour de l'affiliation et des fonctionnalités de shopping.
La marque et plateforme e-commerce allemande About You veut lever 1,1 milliard de dollars pour sa prochaine IPO.
Moi aussi, je veux lever 1 milliard d'euros, Laetitia.
Mais vas-y, lance-toi.
Pinterest rajoute une fonctionnalité de shopping list pour les produits sauvegardés.
Joe Biden révoque 3 décrets de Donald Trump qui visaient à interdire TikTok et WeChat, qui sont toujours en sursis.
Lightspeed rachète Equid pour 500 millions de dollars et également New Order pour 425 millions de dollars pour consolider son offre e-commerce.
Spartoo prépare son introduction en bourse et Adrien veut aussi une introduction en bourse. Pour quel produit, on ne sait pas.
J'ai eu peur comment tu allais finir cette phrase. Google qui s'ouvre à d'autres plateformes e-commerce, en l'occurrence avec WooCommerce pour permettre aux vendeurs de WooCommerce de lister leurs produits sur Google.
Et Kiabi, toujours dans la seconde main, mais cette fois-ci, Kiabi se lance un service de location de vêtements de maternité.
Et encore seconde main, c'est Castorama qui annonce l'ouverture prochaine d'une boutique de seconde main.
Adrien, la news what the fuck de cette semaine, je crois qu'elle va me faire bien rire.
La news what the fuck de la semaine, c'est Google qui annonce à son tour des mesures contre le pistage publicitaire sur mobile. Alors Google, dont le business model repose principalement, je crois que c'est 98 ou 99% sur la publicité. C'est assez amusant de voir que désormais, suivent le pas d'Apple qui, dans sa dernière mise à jour logicielle, demande aux utilisateurs justement la confirmation ou non du tracking. Tu l'as reçu, toi, en notification?
Oui, je l'ai reçu et j'ai dit oui à tout parce que je suis un peu une bonne poire de la data. Je partage tout.
En disant oui, en te disant que ça va améliorer les services,
ouais,
et que tu auras meilleur
quelque
chose.
Moi, j'ai envie que les services soient améliorés, que la pub soit bien ciblée pour moi.
Et puis, d'un autre côté, tu te dis, si demain, tu as un service, tu as envie que les gens disent oui et que tu puisses l'utiliser.
Exactement.
Quoi. Et à partir de fin 2021, donc, lorsque un utilisateur Android désactivera la publicité ciblée par centre d'intérêt ou la personnalisation des annonces, l'identifiant publicitaire ne sera plus disponible. Et Google fera des contrôles pour que ceux qui développent des apps ou qui utilisent ces services fassent bien attention.
Quoi de neuf chez nous? Qu'est-ce qui se passe chez nous, Adrien,
bah ouais,
en ce moment?
C'est la vraie qu'on parle de nous. Alors, écoute, chez moi, j'ai fait des achats sur deux marques, Birkenstock et Dockers. Et je voulais te parler de cette expérience parce qu'en fait, donc, j'ai créé des comptes sur ces sites-là. Je n'ai pas l'habitude d'acheter. Et ces sites ont l'habitude de vendre et de faire attention avec les tailles. Ils doivent avoir beaucoup de retours.
Surtout que Birkenstock taille très grand.
Ouais, j'aurais dû le savoir parce qu'en l'occurrence,
j'aurais dû
te demander.
Laetitia, je vais acheter des Birkenstock, ça taille comment?
Je savais que si j'allais t'en parler, t'allais te moquer de moi.
Ah,
ou alors on balançait au truc.
Aparté, ouais. J'ai découvert un site mythique, ça vas-y. S'appelle Quelle est la taille? Ouais. Et t'as la taille de toutes les stars du monde. Par exemple, je sais pas.
Jordan. Sa taille.
Hier, je regardais Elisabeth Moss, qui est une actrice, elle fait 1m60. Et donc, il y a un site qui est dédié à ça. Voilà, on parle
donc,
de
si
taille.
Si jamais tu ressembles à un truc, mais c'est quoi? C'est par curiosité, c'est ça?
Ouais, c'est vraiment
toutes les tailles des trucs. Et c'est pas juste les chaussures.
En fait, sur Google, la taille des acteurs, des actrices, c'est peut-être la troisième ou la quatrième question la plus posée. Ouais. Voilà, du coup, quelle est la taille, la pointure d'Adrien? 42, mais pas en Birkenstock.
Il faudrait qu'on ait notre nom, alors, quand on aura la fame sur ce site.
Quand on aura notre page Wikipédia.
Donc, quand j'ai acheté sur ces sites, j'ai reçu, il y a des petits trucs qui allaient, d'autres trucs qui allaient pas, mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est pour ça que je voulais en parler, c'est la gestion des retours. Et notamment le fait que les retours soient tout intégrés, c'est-à-dire que certes, en ligne, tu peux déclarer ton retour très facilement, mais surtout dans la boîte que tu reçois, elle est déjà préconfigurée pour que tu puisses la manipuler, la refermer derrière. Tu as le bon de retour, ça c'est un peu plus classique déjà, pré-imprimé. Et donc le retour se fait vraiment en quelques secondes. Il n'y a plus qu'à aller le déposer pour envoyer les produits. Donc superbe expérience avec ces deux marques qui avaient beaucoup de similarités sur la gestion de retour vraiment fluide. Et donc c'est rassurant. Et je comprends pourquoi beaucoup de personnes font du bracketing, c'est-à-dire achètent beaucoup de produits et renvoient la majorité ensuite.
Adrien, tu penses qu'ils sont passés par un prestataire pour
Je sais
qu'il y a iPli qui, justement, on l'a dit la semaine dernière, qui s'est mis en partenariat avec je ne sais plus qui pour la gestion des retours et qui propose directement une enveloppe.
Alors, il y a plein d'aspects pour la gestion de retour. Il y a la gestion sur le site e-commerce, il y a le packaging, il y a avec le transporteur. Alors, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Bon, en tout cas,
du coup, tu as renvoyé tes Birkenstock 42 pour un petit 41,5, c'est ça ?
Je ne dirais rien du tout, Laetitia, mais tu sais qu'on est à côté d'un magasin et donc je crois que je vais passer après l'enregistrement et pour aller faire des tests, mais j'en dirai pas plus. Et toi, Laetitia, alors quoi de neuf chez toi ?
Quoi de neuf chez moi ? Eh bien, il y a 2-3 épisodes, on s'interrogeait avec Adrien sur la double authentification sur Amazon, puisque vous savez, ça a été mis en vigueur depuis le 15 mai. Enfin, c'est entré en vigueur depuis le 15 mai et moi, je m'étonnais de ne pas voir ça sur Amazon. Donc un de nos auditeurs, Werner, nous avait dit que lui avait eu cette expérience sur Amazon. Moi, je ne l'avais pas eu jusqu'à hier, je crois, où pour un abonnement de couche pour bébé, je précise, la double authentification s'est mise en marche. Du coup, ça m'a un peu saoulée parce que ça a ralenti le process. Pour moi, Amazon, c'est vraiment parce que ça va très très vite et que limite, j'ai pas le temps de réfléchir. Bon, là, fallait quand même ouvrir l'application, machin, nani, nana. Même si en soi, ça m'a fait perdre peut-être une minute de ma journée. Mais c'était déjà beaucoup trop.
C'est pas une minute de prendre son téléphone, c'est 10 secondes.
Oui, mais bon, ça m'a énervé.
Pour toi, ouais.
Ça m'a énervé. Comme j'étais énervé, tout était multiplié.
T'étais énervé pourquoi, Laetitia ?
Mais parce que moi, j'aime bien quand ça va vite, quand c'est fluide.
T'étais énervé avant le process ou c'est le process qui t'a énervé ?
Non, c'est vraiment le process.
Okay.
Parce que justement, si je vais sur Amazon, c'est pour que les choses se passent vite, simple et de manière très fluide. Et donc, ça s'est mis en place pour un abonnement à 36€ par mois et j'ai refait des achats dans la journée sur Amazon. Oui, je suis Amazon addict et la double authentification ne s'est pas mise en marche. Donc, tout ça pour dire qu'on connaît pas très bien les règles de déclenchement, en tout cas sur Amazon, sur la double authentification.
Ouais, j'ai un peu une expérience similaire où de temps en temps on me la demande et de temps en temps pas. Donc, il doit y avoir des
critères.
Non, mais
moi, si continue à me le demander tout le temps, en fait.
Tu continueras à acheter Laetitia.
Non, je partirai.
Tu partiras ou dans d'autres sites, tu te le demandes systématiquement.
Je rends ma veste Amazon. Et là, c'est quoi de neuf chez vous ? Qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Qu'est-ce qui s'est passé dans notre groupe WhatsApp ? Qu'est-ce qui s'est passé sur l'Apple Store, dans nos emails ? Je crois que cette semaine, c'est plutôt un focus sur la communauté WhatsApp.
Ouais, parce qu'on n'a pas reçu de commentaires sur Apple Podcast.
On nous écoute
donc,
plus.
On continue à nous écouter, mais en tout cas, peut-être qu'on peut encore vous inviter à nous laisser des commentaires. Et sur WhatsApp, donc la communauté, où on est une 110 personnes à peu près, on réagit à pas mal de choses. Il y a eu plein de sujets, mais il y en avait un qui me paraissait que j'ai choisi qui me paraissait amusant. Et ensuite, je te laisserai commenter le sujet que tu as choisi. Celui que j'ai trouvé qui me paraissait amusant, c'est les Air Jordan. On en avait parlé dans le podcast avec Amazon, la série Lupin, où il y avait des produits qui étaient intéressants. Et donc, Omar Sy annonce qu'il porte les Lupin parce qu'il est fan.
Les Lupin ?
Ouais.
Il porte les Air Jordan.
Les Air Jordan, pardon, dans la série Lupin parce qu'il est fan. C'est pas un placement de produit. Et pour autant, depuis la diffusion de la série, la marque Jordan a fait plus 80%. Et on se souvient que le business model des Air Jordan, en général, c'est que des produits qui sont en série limitée. Ils se vendent très très vite dans l'heure et ils sont revendus ensuite très rapidement sur les sites les eBay et compagnie pour plusieurs milliers d'euros. Donc il y a beaucoup de fans qui suivent ça. Ça continue à légitimer le fait ou à crédibiliser le fait qu'Amazon a une carte à jouer dans les connexions entre la vente et le média. Laetitia, qu'est-ce que tu avais retenu toi cette semaine dans la commu ?
Eh bien moi j'ai retenu une question de Nancy ce matin qui nous demandait des conseils pour suivre une formation e-commerce. Alors Nancy, malheureusement nous on n'a pas trop pu te conseiller parce qu'on n'est pas encore formateur avec Adrien. Peut-être qu'un jour on va délivrer des formations e-commerce.
On l'est l'année dernière à la Belle École.
Ah oui, c'est vrai, on a fait la Belle École, c'est vrai. Non, mais en fait, on est régulièrement sollicité, mais on n'a pas le temps parce que moi j'achète beaucoup sur Amazon, Adrien sur Birkenstock, donc on n'a pas le temps. Non, la réalité, c'est que moi, je voulais informer toutes celles et ceux qui voulaient suivre des formations e-commerce, c'est que déjà, vous avez pléthore d'organismes qui vous proposent des formations euh, sur, sur le e-commerce. Et surtout, moi, je voulais vous mettre en garde contre les arnaques, parce que bien souvent, elles sont reliées à des offres avec votre compte de formation personnelle, et qu'il y a pas mal d'arnaques qui ont été relevées. Le gouvernement met régulièrement en garde contre ces pratiques, parce qu'il y a quand même des gens, notamment des influenceurs et des influenceuses, et souvent, ce sont des anciennes stars de télé-réalité, qui vous proposent des organismes, en tout cas de la mise en relation avec des organismes un peu frauduleux.
Moi, j'y connais rien à dire.
Alors, moi, je balance la GLC ouais. Family,
c'est qui,
par
GLC,
exemple.
C'est quoi, c'est qui?
Non, je vais pas tout expliquer.
Mais en deux mots, c'est à la
en
télé.
En gros, il y a un organisme qui s'appelle The Academy. Derrière, on a des gens de télé-réalité.
Mais quelle télé-réalité? C'est genre Koh-Lanta?
Non, là, c'est autre chose. C'est plus les Marseillais à Dubaï et compagnie, tu vois.
Ok.
Et du coup, ces gens-là ont créé un peu, à l'instar des sites de dropshipping qu'ils ont pu faire, là, ils s'associent.
Donc, ils passent à la télé,
à
ils savent
gens.
Rien faire, ils reviennent, et ensuite, pour surfer un peu
et
sur
du
la
coup,
fame.
Comme ils sont
ils
très influents dans les social media et tout ça, ils vous proposent, vous aussi, de devenir e-commerçant et donc de vous former
ça
au
avec
e-commerce. Non, ça n'a rien à voir, mais si tu veux, ils sont très associés à du dropshipping, donc à du e-commerce.
Parce qu'ils vendent quand même des produits, ils ont du merchandising.
Ah oui.
Donc ils disent, on va t'aider à faire comme moi, à vendre des trucs et ça.
Exactement, t'as compris. Okay. Et du coup, ces gens-là se sont associés à des sociétés qui arnaquent vos comptes CPF. Et
arnaque, c'est-à-dire, en fait, c'est des formations bidons. Ils arnaquent
non,
pas.
Non, ça veut dire qu'ils te demandent de payer via ton compte de formation et il n'y a jamais de formation qui a lieu. Par
donc
contre, l'argent a disparu de ton compte CPF.
Ok.
Voilà.
Ouais,
et si
moche.
Vous voulez en savoir plus sur ce genre de choses, vous allez sur le compte Instagram que je vous avais déjà mis en reco, vos stars en réalité. Et là, il y a pléthore d'arnaques à ce sujet-là. Bon, Nancy, en tout cas, fais attention, ne va pas n'importe où. Et je pense qu'Adrien a d'autres reco.
Ouais, des conseils ou en tout cas des réflexions. Pour moi, ces formations e-commerce, c'est un peu comme l'empaillage, quoi. Tu fourres tout à l'intérieur et puis tu essaies de revendre ça au plus vite, alors que c'est même pas vivant, c'est complètement périmé. Et donc deux grosses réflexions. La première, c'est l'e-commerce, c'est tellement vaste comme sujet. Si j'ai envie de dire, c'est comme si tu veux une formation sur la vie, quoi. Enfin, bon, je compare pas l'e-commerce à la life, mais c'est un sujet. Il faut déjà définir ce que c'est que l'e-commerce. Et nous-mêmes, on a du mal. Donc c'est tellement vaste que le conseil que je donnerais d'abord, c'est de comprendre bien qu'est-ce que tu veux faire exactement. Et certainement,
oui, parce qu'il y a différents
métiers
aussi.
Déjà ce qu'elle veut pas faire. Je ne pense pas que ce soit sur les CDN ou l'infrastructure technique, ce genre de choses. A priori. Pas, peut-être qu'elle veut même pas coder, peut-être qu'elle veut même pas faire les logos, le design, etc. Et peut-être c'est juste dire, c'est parce que c'est ce qui est le plus shiny, etc. C'est les réseaux sociaux, animer un site et puis communiquer sur les réseaux sociaux, ces trucs-là. J'en sais rien du tout. Mais déjà, regarder un petit peu les différents aspects, il y en a plein, et se dire, est-ce que je suis plutôt dans le marketing, dans les trucs techniques, dans le business, dans le CRM, etc. En ayant dit ça, une fois que tu as construit un petit peu plus ce que tu veux faire, tu peux creuser des formations plus spécialisées et pas juste des formations e-commerce qui est très 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 générique. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que tu as énormément de formations qui sont faites par des éditeurs, des sociétés, et en fait chacun veut te vendre sa salade, soit en récupérant le fonds CPF ou soit en te vendant leur outil, parce qu'ils vont t'expliquer que on t'explique le e-commerce et puis en même temps on dit que notre outil c'est le meilleur. Amazon avait sorti l'année dernière une formation
Amazon Academy, je crois,
si c'était Academy, mais en tout cas une formation e-commerce. Pour le coup, j'avais dit que c'était plutôt subtil et qu'ils utilisaient des liens tiers. C'était pas juste du Amazon, même s'il y avait quand même pas mal de vernis Amazon. Donc ça peut être un exemple. Shopify fait un paquet de formations. Et puis là, je trouve que c'est un petit peu de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'ils appellent ça formation e-commerce alors que c'est formation Shopify. Mais bon, chacun fait ça. Enfin, tu vois, ça fait 15 ans que je suis chez les éditeurs aussi. C'est normal, tout le monde fait ça. Donc je dis attention aussi de ne pas tout de suite aller sur un outil, même si certains outils sont quand même le monopole sur le marché et tu peux avoir des certifs. T'avais passé toi des certifs Google par exemple ou Facebook?
Google vous propose pas mal de formation sur le digital, et donc du coup j'ai passé la formation sur le digital, je sais plus comment elle s'appelle, et vous avez quand même une petite introduction sympathique sur le e-commerce, mais ça reste très très général. Mais si vous savez pas trop où vous diriger, pour le coup moi je vous conseille de commencer très général et puis
demander aussi, peut-être la meilleure chose c'est demander à des personnes qui travaillent dedans, à discuter avec eux et voir un petit peu ce qu'il y a. Regardez aussi, là c'est pas pour faire comme quoi on a tous des trucs à vendre, mais nous on le vend à zéro, c'est les recommandations au micro, peut-être les Notion, ça te donne plein d'aspects sur plein d'aspects différents. Donc ça peut être aussi ça, parce que des fois tu sais pas ce que tu ne sais pas, donc peut-être qu'en regardant ça tu vas avoir des trucs, se dire ah, putain, j'aimerais bien me spécialiser là-dedans ou ce sujet-là m'intéresse, quoi. Donc il faut creuser l'analytics aussi, la
ou
data,
alors écouter tous les PPLM, parce que toutes nos interviews sont des pans et des segments du e-commerce.
Mais c'est vrai que là le café de l'e-commerce c'est de l'actualité, donc on va te donner une éducation sur l'écosystème, sur le contexte, etc. En formation il y a peut-être c'est plus du top-down qui est nécessaire. En tout cas, bon courage, et puis si on trouve des ressources intéressantes, on vous le fera savoir. Breaking news, les big news que tu ne lis pas, on les analyse pour toi, on en parle, on en débat et le tout sans langue de bois. Laetitia, de quoi tu voulais parler cette semaine ?
Eh bien écoute, je vais te faire, c'est pas une charade, mais en tout cas je vais te lire un petit truc et tu vas me dire ou à quoi ça te fait penser.
Okay.
J'achète chez Shein ou Amazon, je revends et je rachète sur Vinted. Entre les deux, je fais un tour sur AliExpress et j'avale un Big Mac chez McDo. Et pour finir, je fais un petit jeu vidéo où j'écoute de la musique sur mon abonnement Apple ou Spotify sur mon iPhone et je recommence. À ton avis, c'est la routine de qui, de quoi ?
Gen Z, non, je sais pas.
Presque, c'est la routine préférée des ados.
Ouais.
Alors en fait, non, la Gen Z, c'est pas ça. Parce que là, c'est une étude qui est menée sur 10-18 ans et Gen Z, c'est 18-24.
Ah.
Voilà, bim.
Bravo Laetitia, chaque mot a son importance.
Exactement. Donc c'est une étude qui est menée par Paylead, qui a une solution de paiement. Je vous mettrai le lien. En gros, c'est dis-moi comment consomment les ados et puis ça nous fera une petite map de leurs habitudes. Et surtout, on a pu, grâce à cette étude, on peut voir quelles sont les marques préférées des ados, donc 10-18. Tu dirais qui, toi, en premier ? Moi, j'étais choquée.
La marque préférée ?
Ouais.
De 10-18.
Ah, c'est pas forcément une marque, d'ailleurs, c'est une plateforme.
Bah, TikTok ?
Non.
Le Pinterest, enfin, il y a un de ces trucs-là ?
Non, je sais pas. Bah, c'est Shein, t'en parlais il y a 2 semaines. Moi, j'étais choquée, avec un panier moyen de 28 euros.
Mais c'est pas possible. 10-18, t'as pas de CB. Tu peux pas acheter.
Ah, bien sûr que si. Tu peux avoir maintenant. Il y a plein
d'accord, mais à 10 ans,
de
à 10 ans, ok. Mais bon,
Bah, tu passes par tes parents.
Okay.
Et puis regarde Jennifer qui a mis en place le système de Link. T'envoies, tu dis tiens, tu peux me payer et tout.
La phrase qu'ils ont posée, c'est quoi ? C'est pas la marque préférée.
Le top 10 des marques préférées des ados.
Ouais, bah écoute, ok. Moi, j'aime bien être contre les sondages, tu sais.
En deuxième, on a Amazon.
Okay.
En troisième, Vinted. En quatrième, AliExpress. Moi, j'étais assez choquée de voir qu'AliExpress était pas dans le top 3, mais en tout cas dans le top 5. Et en fait, si, en regardant autour de moi avec mes cousines, voilà, ouais, ils ont le réflexe AliExpress.
Mais on aurait pu trouver du Wish, par exemple, tu vois. Un truc bidon comme ça.
Un peu moins, quoi. La raison simple, c'est que AliExpress est quand même hyper.
Oui, mais finalement, ce que tu listes, là, les top 5, c'est ce qu'on retrouve chez les vieux aussi. Il y a pas de.
Les vieux achètent chez Shein, je suis pas certaine. Non.
Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des marques spécifiques au 10-18, c'est des marques qu'on voit et qu'on peut acheter. Je me serais attendu à des marques qu'on n'utilise pas du tout.
Avec une cible
quoi.
Assez jeune. Par contre, on voit qu'il y a du Leclerc, on voit qu'il y a du Carrefour. Hey, Carrefour, ma marque. Mm-hmm. Donc voilà. Et en dixième, on retrouve Apple. Voilà. Je vous mets ça dans le lien en commentaire. Et puis dites-nous vous si vous avez entre 10 et 18 ans, si vous avez des ados de 18 ans, si c'est vraiment les marques que vos jeunes consomment. Un café avec, c'est la rubrique dans laquelle on prend un café avec un ou une spécialiste, un expert qui nous présente une idée, un concept qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter avec Adrien. Et cette semaine, on prend un café avec Henri Pruvot, social media manager. Spoiler, j'en avais déjà parlé, j'avais parlé de lui parce qu'il édite une newsletter sur le social media. Et à votre avis, de quoi on va parler avec lui ? Eh bien, social media.
Et aujourd'hui, on accueille Henri Pruvot. Bonjour Henri.
Bonjour.
Henri, est-ce que tu pourrais te présenter, nous expliquer un petit peu ce que tu fais ?
Oui, alors du coup, c'est Henri Pruvot. Je suis social media manager depuis maintenant 5 ans. J'ai fait 3 ans dans l'agence digitale lilloise Nice to Meet You. Et là, ça fait 1 an que je suis à mon compte en freelance, avec notamment comme projet d'être digital nomade d'ici quelques jours, parce que le 21, je lance ce projet.
Ben génial, félicitations. Et on échangeait ensemble parce que donc t'es un expert social media. Il y a même une rubrique. Alors on parle chaque semaine de social media et on a même une rubrique dédiée pour le social parce que c'est intrinsèquement lié à l'e-commerce. Et aujourd'hui, on voulait parler de la gestion du budget social media pour une marque. Est-ce que avant de commencer par le sujet, tu peux nous définir ce que ça veut dire et de quoi on parle exactement ?
Ouais, ben en fait, c'est quand vous allez construire votre budget social media, votre budget de communication sur les réseaux sociaux. Au début d'année, c'est comment vous allez diviser votre budget tout au long de l'année. En fait, ce qui se passait, c'est que globalement, l'habitude de tout le monde, c'est on va diviser de manière équitable tous les mois avec un peu le train-train quotidien, le même nombre de postes, le même type de communication. Alors que, en fait, il y a des manières un peu plus pertinentes, des manières un peu plus intelligentes de diviser son budget sur ces médias.
Et donc, tu vois qu'aujourd'hui, les marques, historiquement, elles travaillaient d'une certaine manière leur campagne sur le budget. Et aujourd'hui, si elles veulent faire face à la concurrence et en fait optimiser leurs dépenses, il faut qu'elles revoient leur manière de dépenser, c'est ça?
C'est ça. Mais en fait, faut se dire que avant c'était possible de fonctionner comme ça parce que déjà il y avait beaucoup moins de concurrence. On avait des reach organiques notamment sur Facebook, Instagram, il y a 4-5 ans, on était autour des 10-15%. Donc pour rappel, le reach organique, c'est le pourcentage de délivrabilité de vos posts sur les réseaux sociaux par rapport à votre communauté. Aujourd'hui, ça a complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'on a 80% des marques qui sont sur les réseaux sociaux. On a un reach de plus en plus faible et qui va continuer à être de plus en plus faible. Là, actuellement, on doit être autour des 2-3%. Et surtout, en fait, entre les créateurs de contenu, les particuliers et les marques, en fait, maintenant, on est dans une guerre d'attention et de contenu de plus en plus féroce. Donc c'est vraiment important de diviser son budget de manière cohérente et surtout en étant cohérent avec ses temps forts commerciaux, les temps forts où c'est vraiment stratégique pour vous de faire du chiffre plutôt et peut-être de moins communiquer justement sur des périodes où c'est peut-être moins stratégique pour vous.
Justement, Henri, là, tu viens d'en parler. Quand on parle de gestion, moi, au niveau, là, je pense à deux choses. Déjà, c'est sur quel réseau social il faut investir, comment il faut investir et puis quand il faut investir. Donc, où est-ce que tu investis, combien et comment. Qu'est-ce que tu pourrais dire là pour aider justement les marques à définir leur strat ou à revoir leur strat? Ce serait quoi les quelques tuyaux que tu pourrais leur donner?
Pour savoir sur quel réseau social il faut aller, c'est simple, c'est connaître sa cible. Il y a qu'en connaissant sa cible et en connaissant vos objectifs aussi que vous saurez sur quel réseau aller. L'erreur de beaucoup de marques débutantes, c'est d'aller un peu sur tous les réseaux en même temps, sur Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok, etc. Ce qui potentiellement n'est pas cohérent avec votre budget global, n'est pas en cohérence avec votre cible, n'est pas en cohérence avec vos moyens humains aussi. Donc, il vaut mieux parfois être dans une stratégie de focus, se focus sur 1, 2, voire 3 réseaux sur lesquels c'est vraiment pertinent. Mais c'est vraiment surtout en connaissant la cible, en faisant un travail là-dessus, que vous saurez votre cible, qui est-elle, quelles sont ses habitudes sur les réseaux sociaux, comment elle consomme les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle va aimer sur les réseaux sociaux et sur quelle plateforme elle se situe. Et là, du coup, vous saurez... Vous saurez sur quel réseau aller.
Ok, donc là, tu fais ton travail pour définir ta cible, tu vois quels sont les réseaux sociaux sur lesquels il faut investir, et ensuite, tu investis, je suppose, en fonction de là, enfin, tu fais de la bonne allocation en fonction de là où il y a le plus de personnes, c'est ça? Ou en tout cas, les leviers, là où tu vas voir grandir le plus?
En fait, je pense que n'importe quelle marque, surtout e-commerce, il y a des moments dans l'année où ça va être beaucoup plus stratégique, où historiquement, vous allez générer plus de ventes que dans d'autres périodes. Je peux vous prendre un exemple si vous voulez. J'ai travaillé avec Béguincé à l'époque. Du coup, Béguincé, ouais, la marque de sucre. Ouais. Béguincé, ils ont 3 temps forts. Ils ont un temps fort sur la confiture en été, parce que c'est le moment où généralement on va faire sa confiture. Il y a le temps fort pâtisserie de septembre à décembre. Et il y a un temps fort chandeleur où ils vont vendre du coup leur sucre, notamment pour faire des crêpes. Et nous, ce qu'on avait fait, du coup, on avait vraiment réfléchi à des opérations de contenu sur ces périodes. Notamment, on avait fait pour la pâtisserie, on avait fait une opération avec une cake designer qui s'appelait Chacha Bakery. Et en fait, notre objectif, c'était d'engager la communauté tout en présentant de manière ludique les produits de la marque Béguincé. Et du coup, en fait, ce qu'on a fait, c'était en total story d'Instagram, on a challengé la cake designer toutes les semaines sur la forme, la couleur, les ingrédients. Donc en fait, la communauté pouvait voter sur la semaine prochaine quelle forme de gâteau sur lequel doit être apposé, quelle sera sa couleur, quels seront ses ingrédients. Et du coup, la semaine d'après, elle revenait du coup avec le gâteau. Et à la suite de la présentation du gâteau, on expliquait comment elle avait confectionné le gâteau. Et c'est là notamment qu'on mettait en avant le sucre. Voilà, c'est ce type d'opération de contenu où on part un peu du train-train quotidien. On est vraiment sur une opération beaucoup plus divertissante, beaucoup plus impactante. Et au final, les chiffres de cette opération, donc, on était sur du 100% organique. En termes de budget, il y avait du budget, notamment dans la dépense de la cake designer, le fait du montage, etc. Mais la diffusion, vu qu'on était en story, j'étais 100% organique. Et on a réussi à avoir quand même 180 000 impressions. On a gagné 100 abonnés gagnés, alors que c'était pas forcément l'objectif de base. Et on a eu un engagement sur les stories de 35%, alors que généralement, on est autour de 5-10%. Donc voilà, c'est ce type d'opération.
C'est un gros succès.
C'est ça. C'est ce type d'opération qui va vous permettre, du coup, de challenger votre communication.
Tu parlais de contenu là justement sur cette opération, mais en général, le contenu, tu vas vraiment complètement le changer et l'adapter en fonction des plateformes, où tu pourrais se dire bah, le contenu sur Facebook et sur Instagram, on peut réutiliser le même contenu. Tu l'adaptes à quel point ?
En fait, il y a deux choix. Soit vous dites OK, on va faire une opération de contenu, on va le faire sur tel réseau et pas sur les autres sur lesquels vous êtes positionné. Soit en effet, vous dites OK, ben, cette opération, il faut qu'elle vive sur plusieurs canaux. Et là, il y a aussi deux choix. C'est ben, soit en effet, vous adaptez votre contenu au code, parce que forcément, communiquer sur Facebook et TikTok, ben, ça va pas être du tout la même chose, pas du tout le même format. Soit en fait, vous allez peut-être parler d'un sujet sur un réseau, d'un autre sujet sur un autre réseau. Enfin voilà, que ce soit complémentaire, que les canaux vivent ensemble dans le cadre de l'opération.
Est-ce que tu vois justement des exemples de marques qui font ça bien ? Alors soit sur lesquelles tu as déjà bossé, ou des marques que tu suis et qui sont des bons exemples à suivre ?
Il me semble qu'il y a Bisbee notamment qui fait ça, notamment avec leur casting Bisbee annuel. Où en fait, du coup, leur casting, alors si je me souviens bien, peut-être que si y a des gens de Bisbee qui m'écoutent, ils vont. Mais si je me souviens bien, c'est du coup un casting où en fait, au lieu de chercher des mannequins pour faire gérer leur nouveau produit, ils vont directement faire un casting dans leur communauté, où en fait, c'est des gens de leur communauté qui vont gagner ou pas la chance d'être égérie de Bisbee pendant un an. Et du coup, ça, c'est hyper fort, hyper intéressant. Et c'est vraiment l'opération qui fait vivre l'animation social media de Bisbee sur l'année.
Mais ça, ils le font une seule fois dans l'année ? Enfin, c'est sur plusieurs mois, c'est ça que tu veux dire ?
Je crois que ça dure un mois.
Ok, joli exemple. Henri, est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de contenu qui fonctionne bien sur les réseaux sociaux, d'autres campagnes sur lesquelles tu as pu bosser ou que tu as pu voir ?
Ouais, du coup, j'ai notamment bossé pour Terreo, où l'objectif, c'est pareil, ils ont plusieurs temps forts dans l'année.
C'est qui Terreo ? Je ne connais pas.
C'est une marque qui vend des accessoires de chasse, de pêche et d'équitation.
D'accord, ok.
Et du coup, là, on avait fait une campagne marketing, notamment dans un temps fort autour de l'équitation. Et du coup, c'est une campagne qui a vraiment fonctionné, parce qu'on a eu 6 millions d'impressions, on a eu un retour sur investissement de 5, on a eu 1200 abonnés gagnés sur Instagram et on a eu 17 500 clics and swipe. Donc, voilà, on est sur les gros chiffres. En fait, le dispositif qu'on a mis en place, c'est qu'on a eu une campagne de notoriété et une campagne de conversion. En fait, les deux vivent ensemble. C'est-à-dire qu'on avait une campagne de notoriété où on balançait sur le compte Instagram plusieurs jeux concours, mais qui étaient en adéquation avec les codes de la cible. En fait, la cible des équitations, c'est plutôt 20-25 ans féminines qui vont être très proches de leurs chevaux. Et du coup, on faisait des concours type poster un selfie avec votre cheval, donner une astuce pour soigner votre cheval, etc. Et en fait, ce qu'on faisait ensuite en conversion, c'est qu'on retargetait l'engagement qu'on a eu notamment sur ces jeux concours. Et du coup, les gens participaient en premier temps aux jeux concours et ensuite étaient potentiellement touchés par des publications, des publicités pour justement générer la conversion. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est du coup, on a mis en avant les produits, on a fait les instants expérience, qui est un format très intéressant sur Facebook. Et surtout, on a mis en avant des vidéos où en fait, les experts Terreo montraient et expliquaient les bénéfices du produit. Et du coup, ça, en plus d'avoir une manière ludique de présenter les produits, on avait aussi, ça permettait d'accroître le côté un peu humanité et confiance dans l'image de marque de Terreo. Et du coup, ça peut être une bonne transition sur faut aussi savoir que quand vous faites des social ads, priorisez surtout la qualité de votre contenu plutôt que la qualité de votre stratégie. C'est-à-dire que s'il faut choisir entre les deux, il vaut mieux vraiment donner le plus d'efforts sur le contenu que vous allez diffuser. Parce qu'en fait, un bon contenu pourra rattraper une mauvaise stratégie, social media ads, mais une bonne stratégie ne rattrapera pas un mauvais contenu. Parce que c'est vraiment le contenu qui va engager ou pas la communauté. Et surtout que maintenant, on a un algorithme Facebook de plus en plus fort, beaucoup plus fort que tous les marketeurs et que les tous social media managers sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment le contenu maintenant où vous allez pouvoir vous différencier sur vos campagnes sociales.
Ouais, l'algorithme reconnaîtra un bon contenu et te mettra en avant et au final, ça te fera fonctionner où il y aura des effets de bord positifs et inversement, c'est très compliqué. Voire, tu n'existes pas en fait. Si tu as du mauvais contenu, ça va complètement passer aux oubliettes et tu n'existes pas. Merci beaucoup Henri pour ces précisions et cet exemple que tu nous cites. On arrive au terme de cet échange. Comment est-ce qu'on fait pour en savoir plus ?
Alors, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement bah, du coup, des astuces, des petites vidéos juste, ou des case studies comme j'ai montré là dans ce podcast voilà, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, ça peut être une bonne manière de me recontacter. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez rester en veille sur les réseaux sociaux, bah, je tiens justement une veille hebdomadaire qui, d'ailleurs, pour moi est en pause, mais elle va reprendre là courant juillet. Et pareil, du coup, normalement, vous aurez le lien bah, notamment via le podcast et vous aurez le lien aussi via mon LinkedIn si vous ne le trouvez pas.
Merci beaucoup Henri. Et puis c'était une des recommandations de Laetitia il y a quelques semaines ou quelques mois. C'était d'ailleurs comme ça qu'on avait pris contact. Je sais qu'elle reçoit ta newsletter tous les lundis, je crois, enfin ou chaque semaine, et qu'elle fait sa veille social media. Henri, au plaisir de se parler très vite. Alors tu seras sur la route. On ne sait pas dans quel pays tu seras quand on se parlera la prochaine fois.
Je serai en Croatie, je pense.
Eh ben génial. Écoute, bon courage à toi alors et à très bientôt. Au revoir.
Merci à vous.
Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est la rubrique où on fait un bond d'un an en arrière pour faire le suivi des news marquantes de l'époque. On confronte nos prédictions, qui sont souvent fausses, et nos analyses de l'époque. Montez dans la DeLorean et c'est parti. Adrien, il y a un an, nous étions à la saison 1, épisode 044. De quoi parlons-nous?
C'était le 8 juin 2020. On avait un co-host, c'est Ilan Abeacera de New York, je crois.
Ouais.
On avait parlé de pas mal de choses.
Ici, et il a le podcast We Are New York.
Exactement. On avait parlé de Boo qui rachète Pretty Little Thing. On avait parlé d'Alibaba Group qui voulait recruter 100 000 créateurs ou influenceurs, créateurs de contenu ou influenceurs. Et j'ai regardé un petit peu sur Internet s'il y avait des choses qui étaient comment ça avait évolué ce recrutement. J'ai rien trouvé comme information. Par contre, j'ai trouvé une étude il y a quelques jours ou semaines faite par Alibaba et Forrester, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est une étude intéressante. Donc, je vous ai mis le lien, vous pouvez la consulter, qui parle un peu de tous ces usages de shoppertainment et de live shopping. Il y a 6 type de shoppertainment, d'utilisateurs shoppertainment, donc tous ceux qui, on va dire, achètent et en même temps utilisent leur téléphone pour s'amuser et consommer du contenu. Et je voulais savoir dans quelle catégorie tu es. Donc, je vais juste les lister. Et à mon avis, les noms sont très...
Je suis ça.
Heavy online shoppers, ou alors tu es short video watchers, ou alors social champions, online dimmers, online always, ou binge watchers. Ça mêle pas juste le shopping. Il y en a qui sont peu shopping et très vidéo, ou sinon c'est social. En fait, c'est vidéo, social et shopping. Tu t'es dans laquelle?
Je dirais social.
Et bah, c'est social champions, oui, mais comme tu achètes beaucoup en ligne, en fait, moi je t'ai vu dans online always. Tu regarderas dans l'étude, c'est les gens qui regardent des vidéos en ligne, qui vont sur les réseaux sociaux, postent des choses et également qui achètent des choses en ligne. Donc toi, tu es là toujours connecté. Et donc voilà, donc c'est assez amusant et puis c'est léger. Je vous laisse regarder l'étude qui est assez longue et qui a pas mal d'informations, donc assez intéressant.
Reco micro. Au micro, on fait notre reco, écoutez-la illico presto. Retrouvez toutes les recos sur notre page Notion en lien dans la description. Adrien, quel est ta reco de la semaine?
Eh bien, je vais faire un truc que je crois que c'est la première fois que je fais, c'est de suivre quelqu'un sur LinkedIn qui utilise, en fait, c'est un peu une nouvelle manière. Bah, y a des newsletters, puis il y en a d'autres qui utilisent les réseaux sociaux pour poster leur contenu. Et là, en l'occurrence, c'est Rick Watson, vous aurez son lien dans les commentaires. Et il poste une ou deux fois par semaine des analyses sur Amazon. Il est très porté Amazon ou Marketplace. Bah, c'est un ancien de Channel Advisor, donc il est assez sensibilisé à ça. Et en fait, il fait des posts qui sont toujours likés dans tous les sens, partagés. Tu le connaissais? Tu l'as déjà vu, Rick Watson?
Non, mais du coup, toi, tu suis ses posts. C'est pas des articles sur LinkedIn.
Non. C'est des posts sur LinkedIn. Donc, c'est des posts, c'est ça. C'est pas des articles où tu sors. Et en général, je déteste ces mecs-là, ces influenceurs et tout ça qui postent des trucs et like pour faire le truc.
Je me suis réveillé ce matin. Voilà, et c'est bim, ça. Illumination. Voilà.
Exactement.
Point
non, c'est pas ça.
C'est comme tout ce qu'on voit en ce moment.
Non, c'est ce matin, je me suis réveillé et j'en peux plus. Trois petits points.
Ah oui, c'est vrai.
Truc,
ouais, on a oublié les pseudo-dépressifs, mais finalement, ça va mieux.
C'est la grosse punchline, tu vois, avant de faire... Bref, Rick Watson, c'est un mec, c'est sérieux. Surtout, il met en commentaire, il met les liens de ses news ou ses sources. Donc, une reco, c'est l'analyse d'un point de vue, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais d'un point de vue intéressant de quelqu'un qui évolue dans l'e-commerce et qui a un point de vue intéressant. Laetitia, ta reco de la semaine?
Bah, moi, c'est une newsletter. Hein. Voilà, donc c'est une newsletter américaine qui s'appelle D2C Newsletter. Et en fait, bah, c'est une newsletter qui vous propose de devenir le marketeur le plus intelligent dans le D2C game. Moi, j'aime bien cette newsletter parce que c'est deux fois par semaine. C'est des news toujours hyper pointues, hyper bien recherchées. C'est très américain. Ça parle de tout, même d'Amazon, qui pourtant n'est pas D2C. Et puis surtout, je trouve que c'est assez simple d'accès. Et ils ont un podcast aussi qui s'appelle D2C Podcast. Et c'est vraiment, ça vous ouvre un peu sur le monde des D2C aux États-Unis. Et c'est d'un point de vue très marketing.
Retrouvez toutes les recos et toutes les précédentes sur la page Notion que vous retrouverez en lien dans la description. On arrive au panier surprise. Le panier surprise, c'est la rubrique de fin, celle où on se détend et on s'amuse. On va être tous les deux les maîtres du jeu à tour de rôle. On va s'amuser autour des sujets du digital. Vous êtes les bienvenus pour participer et répondre plus vite que nous. Laetitia, tu avais deux jeux pour moi cette semaine.
Pour toi et pour la communauté, j'ai un French Connection. On est parti. Je te cite des noms, voilà, et tu me dis le lien entre tous ces noms. Miro.
Levé de fond.
Shift.
Je connais pas. Next.
Data IQ.
Ok, une seconde. Ces boîtes françaises qui ont levé de l'argent.
Back Market.
Ouais, top 10. Non, ok, next, j'en sais rien du tout.
Doctolib.
Non, je maintiens ce que j'ai dit. Tout ça, c'est des licornes.
Ouais, presque.
Dans le top 10 des licornes, j'ai vu ce rapport. Vas-y,
c'est pas le top 10, c'est le top 15 des licornes françaises. Et dedans, il y a Ledger.
Ouais.
Voilà, parce que tu m'as viré cette news, et voilà. Bon, en tout cas, depuis ce matin.
Bitcoin, que tu vas, crypto-monnaie que tu vas lancer un jour, tu pourras parler de toutes ces news de crypto.
Non, en tout cas, ça y est, depuis ce matin, là, jeudi 10 juin, on est officiellement, la French Tech est passée à 15 licornes françaises. Et donc, on retrouve Alan, Blablacar, Deezer, Voodoo, Doctolib, OVH, Content Square, Ledger, Miracle, Miracle, Miro, Insect, Vestiaire Collective, Shift, DataQ, Back Market.
Et ce que je trouvais génial, c'est que. Exactement, c'est ça. J'avais vu le rapport, je voulais le partager à la communauté. Je crois qu'il y a 50%, c'est de l'e-commerce.
Ouais, c'est de l'e-commerce.
C'est des choses sur lesquelles on traîne. Donc on est vraiment dans un secteur de fou furieux. Et bien écoute, cool. Le deuxième, c'est le chiffre de la semaine.
Ouais, alors c'est un chiffre qui date depuis un petit moment, mais je l'ai entendu ce matin et ça, je me suis dit, allez, ça va être le chiffre de la semaine. 1 milliard. C'est le nombre d'utilisateurs de WeChat en Chine. C'est le nombre d'iPhone actifs dans le monde. C'est le nombre de clients Shopify actifs dans le monde.
Bon, bah, si tu m'en parles, c'est que c'est Shopify. Donc, je dirais que c'est Shopify.
C'est le nombre d'iPhone actifs dans le monde. C'est oufissime. Je n'imaginais pas.
On est 7 milliards.
Ouais.
Mais la moitié, on va dire, ils n'ont pas de téléphone, etc. Donc, ceux qui sont connectés, je dirais la moitié. Tu vois, vu de nez comme ça, 3 milliards.
Ouais.
Et donc ça veut dire qu'un tiers
sont équipés d'iPhone. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Et surtout, ça rejoint la news que tu disais au tout début sur la data et sur toutes ces choses-là. Ça veut dire qu'il y a potentiellement 1 milliard d'iPhone d'utilisateurs iPhone qui partagent leurs données avec Apple.
Ouais, et puis le système, il continue à être maintenu. Là, lors de la WDC, on a Apple qui va mettre à jour son système d'exploitation et je crois qu'il listait jusqu'à l'iPhone 5, quelque chose, 5 ou 6, quelque chose comme ça. Enfin, l'iPhone, il a genre 5, 6, 7 ans. Donc, c'est des produits qui tiennent bien.
Le premier iPhone, 2007.
Ouais, 2007. Ouais.
Donc là, on est plus sur du 15 ans maintenant.
Non, mais tu sais, d'habitude, les systèmes d'exploitation, au bout de 2 ans, ton téléphone, il est mort, il est trop loin et tout ça. Et là, au bout de 5, 6, 7 ans, tu continues à l'utiliser.
C'est ça que tu disais,
C'est-à-dire qu'en fait, des vieux iPhones sont toujours en circulation et donc du coup, ça peut se propager. Alors que s'il n'y a que les nouveaux, c'est truc. Donc, pas mal.
Et surtout, moi, je voulais dire, c'est très mal formulé ce que je vais dire, mais merci iPhone pour l'e-commerce parce que c'est quand même
Tu t'aventures dans une pente licence.
Mais le fait qu'il y ait eu l'iPhone, cet outil, ce device, ça a quand même donné un grand coup d'accélérateur au e-commerce.
Je te laisse toute la maternité de
merci,
ces propos.
Mais c'est bien évidemment qui est venu avec un store iPhone. Hein?
D'accord, moi je vais remercier Amazon alors.
Mais non, mais c'est pour ça que j'ai prévenu et que j'ai dit, c'est très mal formulé, mais c'est pas merci, mais en tout cas, grand
Google
coup d'accélérateur.
Je remercie Google et je vais remercier la Chine aussi.
Remercie le monde entier.
Voilà, je remercie tout. Mais je te remercie pas toi.
Mais ouais, mais c'est toi, pour ça qu'on a une émission, c'est grâce au e-commerce. Donc merci le e-commerce.
Alors on va passer à la suite. Et la suite, c'est What the Fake. Et je te dis What the Fuck, Laetitia. Un what the fake. Donc je te balance des news, j'en ai 3 pour toi et tu me dis si c'est fake ou pas fake.
Allez.
La première. Google, condamné à 520 milliards d'euros d'amende par l'autorité de la concurrence, ne fait pas appel de la décision et reconnaît ses torts.
Mais non, mais c'est faux. Déjà, c'est pas ça le montant.
Alors tu dis fake ou pas fake ?
Fake.
Ok, et bravo. C'est Google est condamné à 220 millions d'euros et tout le reste est bon. Mais c'est sur le montant, je voulais un truc what the fake.
Oh là là, je l'ai dit tout de suite,
ouais, bravo,
hyper intelligent.
Et enfin, je t'ai mis plein de pièges et j'étais sûr que t'allais sauter les deux pieds. Alors, deuxième news. Le 7 juin dernier, lors de l'Apple WWDC, la Worldwide Developer Conference, donc c'est la conférence pour les développeurs, a été annoncé un partenariat avec Tommy et Bella, une marque de collier pour chiens, pour traquer l'état de santé et la position du chien.
Ouais.
Donc c'est vrai ?
C'est vrai.
C'est faux !
Non !
C'est fake ! Plus c'est gros,
ah non, mais moi j'y
marche.
Crois vachement tout ce qui est autour des animaux et tout.
Certainement. Et j'ai dû aller chercher sur Google, trouver une marque de chien de luxe, enfin de collier de luxe. Enfin bon, bref. Ça, c'est le making
of. Ça devrait être vrai.
Et enfin, troisième, aux États-Unis, Amazon ouvre à la police ses caméras de surveillance Ring pour récupérer des images lors de crimes ou infractions.
Oui, mais ça a fait débat. Il y a un truc sur ça. Donc j'ai envie de dire vrai, mais polémique. Hein.
Oui, bah alors donc c'est une bonne, c'est vrai, c'est correct. En fait, quand je dis ouvre à la police, en réalité, ils vont pas te donner accès, mais ils vont permettre à la police très facilement de contacter les utilisateurs pour leur demander les accès, parce que quand ils sont dans une certaine rue, en gros, ils demandent l'autorisation ou la permission aux utilisateurs. Et ben bah, écoute, bravo. Bah,
deux sur trois, hein, voilà.
Ouais, ouais. Hein. Deux sur trois, oui, c'est
oui,
ça, deux
oui,
sur trois.
Oui,
donc
oui,
félicitations, Laetitia.
Et on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous qui nous écoutez. Pour retrouver les références à cette émission, rendez-vous dans les notes de l'émission sur le site lecafédelecommerce.fr.
Merci à tous. On se dit à la semaine prochaine. Likez tout, vous avez tout en commentaire de l'émission. Salut Laetitia, salut tout le monde.
Ciao.
Harry, peut-être t'auras intérêt à essayer une dizaine de pointures en dessous, toi. Bah, tu passeras au magasin.